Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors pour commenter cette actualité, et ça ne vous surprendra pas, l'équipe est à nouveau réunie. Léonora Victoria, vous la connaissez, franco-colombienne, c'est spécialiste d'études politiques et chef de projet, chef c'est toujours très important. Jean-François Mignard, secrétaire national de la Ligue des droits de l'homme et d'autres qualités que je ne détaille pas pour ménager sa modestie.
Je vous en prie, cher ami.
Et Pierre Larouille, économiste, essayiste et Pierre Larouille qui est aujourd'hui notre hôte, puisque, disons-le, nous sommes dans un paysage fabuleux, nous sommes en pleine nature, donc le son, j'espère qu'il sera bon. Mais en tout cas, sachez que nous sommes entourés de montagnes, je ne dirai pas où on est, pour protéger la retraite de notre ami Pierre Larouille. Mais nous sommes tous partis en extérieur et nous sommes sur une superbe terrasse. Nous allons démarrer donc cette émission, une émission qui sera centrée sur, on va le dire, 3-4 sujets. D'abord l'après-Covid et les enseignements politiques et économiques de cet après-Covid. Le remue-ménage au Moyen-Orient et la présence turque dans les parages, on y reviendra, c'est important pour ne pas dire inquiétant. Léonore nous fera un point sur la situation en Amérique du Sud et ce serait étonnant que, in fine, nous n'évoquions pas les élections municipales de Toulouse. Voilà, c'est ça.
Pour la Turquie, plutôt que parage, il faudrait mieux dire barrage, parce qu'ils en font beaucoup.
Voilà, nous allons y venir.
Toujours un verbe, Pierre Larouille.
Ah ben c'est normal, c'est l'air de la montagne, hein, on a pris de la hauteur, ça nous fait du bien à tous, intellectuellement aussi. C'est Ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Premier sujet donc que nous allons traiter, l'état de la France et de l'Europe après le Covid. La pandémie n'a pas disparu, loin de là, elle nous attend au tournant. Nous n'étions pas préparés pour y faire face. Merci à nos différents gouvernements qui, depuis 2 décennies, ont failli à nous protéger. Gouverner, c'est prévoir, dit-on, c'est prévoir, mais pas seulement sa réélection. Après, on s'étonne et on déplore l'abstentionnisme durant les élections et la montée des populismes. Nous sortons de cette crise économiquement essorée avec une perte du PIB de 12% et un endettement de 121%. Inutile de vous dire qu'alors que la situation économique n'était déjà pas brillante, la suite s'annonce rude. Il va falloir purement et simplement reconstruire et notre économie et le pays tout entier. Après la crise dite des Gilets jaunes, les manifestations contre la réforme du régime des retraites, la fin du quinquennat de Macron s'annonce compliquée. Et ce n'est pas l'annonce d'un nouveau chemin qui est faite pour nous rassurer, notion d'ailleurs totalement floue s'il en est. Le président a beau dire de façon quelque peu incantatoire qu'il va tout faire pour éviter les licenciements, son ministre de l'économie, lui, annonce la suppression de quelque 800 000 emplois dans les mois qui arrivent. Et si vous avez eu la patience d'écouter Macron, vous avez dû noter qu'il parle de, je cite ces mots, « travailler et produire davantage ». Et il est possible que pour une fois, il ait raison. Si les Français croient que la vie va reprendre comme avant, comme si de rien n'était, ils se trompent lourdement. Revendications en semaine, manifestations le samedi, opposition permanente de tous contre tout, ne nous permettront pas de parvenir à la reconstruction incontournable que ce pays doit opérer. Depuis fort longtemps, l'on nous l'a dit, et nous constatons qu'économie et finance guident le monde et que nous devons passer sous les fourches caudines de celle-ci, c'est-à-dire de la finance qui règle et détermine notre vie. Or, en quelques semaines magiques du Covid-19, la politique paraît avoir repris la main, semble à présent mener la danse et les milliards coulent à flot. Beaucoup se disent donc que finalement rien n'est impossible, rien ne pourra jamais nous atteindre et que l'État, l'Europe et d'autres généreux mécènes pourvoiront à toutes les difficultés. Braves gens, dormez tranquilles. Eh bien, il faut rapidement se débarrasser de nos illusions ou de cette illusion, amorcer de déchirantes révisions, prendre conscience de l'état de notre société et celui du monde. Nous ne vivons pas dans une bulle en totale autarcie. Et si dans leur ensemble, les citoyens ne prennent pas en main leur destin et leur devenir, s'ils continuent à se tenir loin de la chose publique et persistent à écouter des sirènes populistes aux discours aussi creux qu'intéressés, les lendemains ne vont pas chanter. donc un sujet très large qui veut commencer, allez, on fait dans l'ordre d'apparition sur scène, Jean-François Mignard.
Oui, alors d'abord je voudrais dire tout le plaisir que j'ai, je pense partagé par mes comparses, de retrouver l'antenne. Après ces quelques semaines et ces quelques mois où les relations sociales ont été au mieux virtuelles quand elles n'étaient pas complètement absentes. Voilà. Content d'être là, toujours aussi gêné de venir après un éditorial aussi brillant.
Les traditions sont respectées, c'est parfait.
Qui, bien sûr, d'emblée, laisse un petit peu quoi tant, effectivement, tout est dit.
Rien n'est dit, mais...
voilà. Sommes-nous à la fermeture de parenthèse, sommes-nous à l'ouverture de quelque chose d'un petit peu différent, c'est quand même les questions, enfin, la toile de fond un peu me semble-t-il, la situation dans laquelle on est. Compliqué d'ailleurs à dire quelque chose après quasiment 2 mois d'anesthésie, comme ça, hein, qui a ouvert tous les fantasmes. Hein, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, plus rien ne devait être comme avant. Hein, le jour d'après devait être radicalement différent du jour d'avant. Depuis maintenant, des jours et des semaines qui commencent à s'accumuler pour faire des mois, on se rend compte, enfin, ce qui se passe sous nos yeux, c'est le retour du monde d'avant. C'est-à-dire les embouteillages thrombosent nos villes, les élections se passent municipales. On est dans le municipal aujourd'hui, enfin, on sort du municipal. Se passe quasi comme si de rien n'était. Hein, et on sent bien que derrière, quand même, il y a quelque chose qui a bougé et on ne sait plus trop, à quoi on est confronté. Voilà. Alors, quand je dis « on », je vais dire « je ». Je suis relativement perplexe par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Qui va payer la dette, hein, Jacques Alavergne pose cette question-là, qui est une question un peu triviale, mais tout ça, qui sait qui va casquer, comme on dit trivialement. On a quand même sinistrement l'impression qu'on est bien revenu sur la manière dont les gens le casquaient avant, c'est-à-dire sensiblement toujours les mêmes, alors que la configuration est quand même relativement sans commune mesure avec le train-train tragique, parce qu'on allait quand même tranquillement dans le mur avant. Voilà. Je ne suis pas sûr personnellement aujourd'hui que ni les citoyennes et les citoyens, ni les responsables politiques ne mesurent les enjeux au-delà de sentiments assez impressionnistes, hein, de ce qui nous attend, qui va être très compliqué. Voilà. Et puis j'en finis, je laisserai la parole pour l'intervention brillante de Pierre. Même si quand même, il y a une espèce d'effet loupe, hein, l'épidémie, le confinement, la manière dont les choses se sont passées, n'ont fait, me semble-t-il, que souligner, forcir le trait, déjà des questions qui étaient des questions intérieurement à elles, et rendre encore plus urgente le fait de bouger, en a-t-on les moyens, en a-t-on l'inventivité politique, sociale, je n'en sais rien.
Pierre Larouille, on fait en suivant, nous gardons le meilleur pour la fin, bien sûr. Pierre.
La meilleure. Oui, c'est vrai que faire un raccourci sur tout ce qui se passe, je sais pas, je vais prendre un axe, alors pour me décaler à peine de Jean-François, moi je pense que la première des choses qui va marquer les mois, semaines à venir, parce que je crains quand même que le virus nous continue à agir pendant quelques mois et sans doute 2 ou 3 ans minimum, c'est la distanciation sociale. Moi, je crois que pour l'instant, on n'a pas encore mesuré ce que ça provoque et ce que ça va provoquer. J'ai utilisé dans des papiers que je faisais pendant le confinement le concept de M. Anzieux, le célèbre psychologue, sur le moi-peau. On était déjà dans une crise d'identité et je pense que la distanciation sociale n'a pas encore montrer tous ces ravages. Et je pense qu'on va le payer très durablement en termes de cohésion sociale. À ceci, bon, je pense qu'on est confronté par ailleurs à quatre crises. Je vais commencer par celle que Jean-François n'a pas citée. On est confronté à une crise démocratique. Et je sais que c'est tellement son cheval de bataille qu'il ne l'a pas fait pour me le laisser. Je pense quand même que ce qui se passe ces jours-ci au niveau de la justice, et tous les errements et toutes les manipulations, parce qu'il s'agit bien de manipulations médiatiques autour de quelques cas dont on verra dans les jours prochains ce que ça va donner, on voit qu'il y a une bataille absolument effrénée de rumeurs qui ont tout un point commun et convergent, qui est le procès de M. Sarkozy à la fin 2020. Donc crise démocratique, j'espère qu'on entendra des voix, parce qu'on n'en entend pas beaucoup. J'espère que d'anciens présidents ou des gens qui ont une vision sur ces choses...
Vous pensez à quelqu'un en particulier ?
Je ne pense à personne en particulier, je pense qu'en tout cas, on attend leur parole. Derrière cette crise démocratique, je vais essayer. Je pense qu'on est confronté à une scansion du futur en trois temps. Je pense qu'actuellement, on est dans un effet waouh, post-confinement, vacances, et on le voit avec la fête de la musique, c'est youpi tralala. Alors évidemment, on commence à sentir que la rentrée ne va pas être facile, mais en réalité, nous n'avons pas intégré, on est encore dans le déni. Du coup, ça a permis au mouvement écologiste de prendre beaucoup de poids, parce que c'est une période où il y avait tout d'un coup une espérance verte qui a pu s'exprimer. La rentrée va être marquée sans doute par des craintes, évidemment économiques et sociales, beaucoup plus fortes, qui vont se traduire par des anxiétés et des peurs, et à mon sens par deux grandes tendances, très progressivement, des violences dans la rue, et des tensions qui vont aller croissant. Et je pense que dès le mois de janvier, on va rentrer dans le dur de la crise, que souligne évidemment et l'édito remarquable de Jacques Lavergne et l'intervention de Jean-François Mignard, où là, nous allons être confrontés non plus seulement à l'inquiétude, mais à la demande de protection. Et on voit s'avancer dès lors une campagne politique, parce que tous ces sujets, à la fin, vont devenir un sujet du politique. Et pour le moins, les choses ne sont pas claires sur ce terrain-là. Et il y aurait beaucoup à dire sur ce qui se passe politiquement après les municipales et après le Covid. Donc là, nous allons, je crois, avoir des surprises. Et il est probablement temps que les gens prennent totalement conscience de ce renversement qui va s'opérer. Parce qu'encore une fois, en général, quand les sociétés ont très peur et qu'en plus elles sont en distanciation sociale, ça augure plutôt d'une autorité malsaine que de grands espoirs qui porteraient tout le monde.
Léonore.
Alors, je vais revenir sur... Déjà, merci parce que ça fait longtemps et ça fait du bien d'être ensemble, surtout dans ce cadre si magnifique qu'en face de la montagne. Et alors, concernant la situation actuelle et de la situation politique et économique en France, c'est vrai qu'on est dans un chemin qui est incertain. Moi, j'aimerais bien faire référence au discours de Macron, son premier discours, quand il nous a répété sans cesse, 6 fois ou 7 fois, « Nous sommes en guerre ». Alors là, ça fait peur. On est en déconfinement. On dirait que les gens ils ont oublié cette phrase parce que tout revient à la normale, entre guillemets. Les gens se comportent comme si rien n'a été. C'est vrai qu'il y a des distanciations sociales avec les masques et tout ça, Mais pour moi, ce que je vois, c'est que c'est un nouveau chemin, un nouveau départ, qu'il est incertain. On a, dans le quinquennat pour Macron, on a l'écologie, on a la souveraineté et la solidarité. Donc, trois sujets qui sont compliqués à gérer face à cette crise. Mais déjà, avec le message qui nous avait dit le premier ministre, il faut travailler davantage. C'est pas nouveau, hein. Il nous le répète sans cesse, il faut travailler davantage. Mais en quoi ? Et pour la nouvelle génération qui arrive, au niveau de la recherche de boulot, moi je pense que c'est ça qui nous dit de travailler davantage, mais en quoi et dans quel domaine? Et après, je vois aussi que la reconstruction du pays, après cette crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec une perte de PIB, ça va être long. ça rattraper ça du jour au lendemain, c'est pas facile. Hein. Donc il faut prendre du temps, mais il faut savoir comment diriger le pays dans une optique de reconstruire, mais avec une économie comme on a travaillé depuis longtemps. Il faut revoir l'économie, une économie circulaire, une économie qui est proche, parce qu'on a énormément délocalisé des entreprises. Donc il faut penser à ouvrir, oui, les frontières, mais de quelle façon maintenant? Parce qu'on rentre dans une crise démocratique, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure. Mais cette crise, elle revient d'une crise aussi identitaire, mais aussi dans les élections. On les a vues, je pense qu'on va parler tout à l'heure sur ça. La pensée des gens au niveau politique, où ils vont par rapport à la décision qui vont prendre par rapport aux partis politiques, la nouvelle façon de travailler. Donc moi, c'est ça que je vois, que pour le quinquennat de Macron, ça va être compliqué de gérer l'écologie, de gérer la souveraineté, également la solidarité. C'est une pensée dans laquelle il faut penser à l'économie du pays, parce que si on a perdu le 12% de PIB, ça veut dire qu'il faut revoir les bases, revoir le travail à un niveau de la politique, mais également des gens, des Français, qui nous demandent de travailler de plus en plus, mais en quoi exactement ?
Pierre Larouille.
Je veux bien rebaler là-dessus, parce que ça a été très à la mode, l'histoire de la souveraineté, et elle rejoint en plus tous les autres problèmes. Et je constate qu'autant, il y a un mois, tout le monde parlait de relocalisation, ça s'est beaucoup calmé, hein, le mot ressort beaucoup moins, parce qu'en réalité, en dehors de quelques secteurs stratégiques sur lesquels on peut faire un effort, tout ça c'est du baratin. La relocalisation, ce n'est pas la solution en soi, c'est très complexe et en règle générale impossible. En revanche, la crise nous a appris quelque chose sur la souveraineté, qui est la plasticité de l'économie. Parce qu'en réalité, si on s'en est sorti, c'est parce que des gens se sont mis à faire autre chose que ce qu'ils faisaient habituellement. C'est vrai de l'hôpital, ça a été vrai sur les masques, ça a été vrai sur plein de choses. Peut-être faudrait-il, j'ai utilisé cette image récemment, finalement, puisqu'on utilise des sous-marins nucléaires, on appelle ça la dissuasion nucléaire. Peut-être que la véritable souveraineté, ça serait d'avoir une dissuasion économique. La dissuasion économique, c'est d'avoir quelque chose qui permette de dire « Oh, si tu m'emmerdes, je m'arrête ». Pour ça, il faut avoir les moyens de le faire. Donc il faudrait vraiment aider l'économie, et notamment chaque fois que des gens touchent des subventions, etc., à leur dire, il n'y a pas seulement ce que vous faites, mais ce que vous feriez si on est atteint par une crise stratégique qui nous met en péril. Et on s'apercevrait que la plasticité et l'adaptation d'une économie est sans doute le premier bouclier de la souveraineté.
Jean-François.
Oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler uniquement d'une plasticité de l'économie. Par contre, moi, je parlerai davantage de plasticité sociale, c'est-à-dire ce que, ce qu'on a vécu. Et alors, anecdotiquement, moi, je l'ai vécu de près pour avoir travaillé dans un réseau d'écoute d'acteurs dans les quartiers populaires, là où la pandémie a tapé sec. Hein, parce qu'elle n'a pas tapé n'importe où. Hein, je veux dire, elle a tapé à la fois sur des tranches d'âge, c'est vrai, mais elle a aussi tapé sur des catégories socio-économiques, hein, la pandémie. On est beaucoup plus, on meurt beaucoup plus du Covid, à la fois quand on est vieux, mais aussi quand on est pauvre et quand on habite des quartiers défavorisés. Donc moi, j'ai travaillé à écouter des gens qui intervenaient, qui travaillaient là-dedans et qui témoignaient d'une capacité d'inventivité sociale, pour le coup, hein, qui a supplanté et qui est venu se mettre d'ailleurs complètement à l'opposé de quasi-abandon des appareils institués classiques, hein, je pense à l'État. Hein, ce qui s'est passé dans les quartiers d'habitat social, on peut en parler sur ce qui s'est passé à l'hôpital, par exemple, hein, c'est-à-dire que les hôpitaux se sont mis à fonctionner complètement en dehors des normes et des procédures, hôpital, client, territoire, hein, toutes les normes, tout ce qui démantèle l'hôpital public pendant depuis ces dernières années. Bref, la société, hein, alors ça, il faudrait aller voir plus loin sur le concept, mais autrement dit, les gens qui se sont regroupés collectivement ont été capables de trouver des réponses qui étaient des réponses alternatives, et souvent d'ailleurs à l'encontre de ce qui leur était imposé. Voilà. Je pense qu'il y a une très forte plasticité, ce d'ailleurs à quoi on assiste aujourd'hui. Et là, moi, je pense que ça va aller dans le sens de redire ou de rendre la situation très compliquée. C'est le retour de l'institué, pour le coup. Hein, c'est-à-dire que ça va être peut-être un peu compliqué de faire rentrer dans le rang, à coup de procédures, pour le coup, maintenant, sanitaires, et pour bientôt d'une autre nature, hein, des gens qui sont des gens qui, d'une certaine manière, ont été capables, comme les grands, de s'organiser collectivement pour répondre aux défis auxquels ils étaient confrontés. Hein. Et au passage, d'ailleurs, aussi... Hein, je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à, hein, que ça révèle. C'est d'une part le rapport de l'État et des territoires, hein, c'est-à-dire que ce à quoi on a assisté, c'est quand même en partie une faillite de l'État jacobin central descendant par rapport à la gestion de la crise, à la fois dans son anticipation et dans sa gestion. Hein, Et il y aurait beaucoup à dire aujourd'hui sur hein, et de grains à moudre sur la territorialisation sur le retour des territoires. Et la deuxième chose, je pense, qui serait intéressante, à un fil à tirer, c'est que la plasticité s'est organisée autour de la question de la communauté, hein, qui dans le discours, dans un certain discours dominant, paraît être quelque chose... Hein, je rappelle tout le discours, le débat autour du communautarisme, du danger, de la sécession. Aujourd'hui, ça s'appelle la sécession. Après, ça peut s'être appelé le séparatisme dans le discours présidentiel. C'est ça qui a permis la plasticité. C'est ça qui a permis à des catégories entières, hein, de territoires, hein, de gens, de pouvoir à la fois résister... bouffer, hein, parce que c'est quand même, on a peut-être tendance à l'oublier, à certains endroits il s'est agi de question de se nourrir, hein, de se nourrir pour ne pas mourir de faim, ou pas, hein, être dénutri. Hein, donc des communautés qui se sont auto-organisées, hein, et qui se sont trouvées en termes construites dans le péril, et qui ont permis effectivement cette plasticité, ce rebond, cette résilience sociale, encore une fois, dont le risque est effectivement qu'aujourd'hui, elles soient un petit peu engoncées, corsetées par un État, des administrations, des autorités qui reviendraient pour mettre de l'ordre dans tout ça.
Oui, deux secondes, simplement pour... bien sûr, Pierre. Je n'oppose pas les plasticités du tout. Simplement, j'avais utilisé la plasticité économique par rapport à la notion de souveraineté et de relocalisation, qui était le sujet qu'avait abordé Léonore, mais il y a beaucoup à dire. Il y aura un bon exemple, d'ailleurs, qui serait très intéressant, c'est celui d'Airbus. Oui. Parce que quand on voit la région et le département qui s'impliquent en disant « on veut sauver Airbus », ils ne sont pas à la taille, hein. Donc par contre, ce qui serait intéressant, ce n'est pas de sauver Airbus, mais de se dire, s'il y a 5000 personnes licenciées, c'est des ressources humaines colossales, oui, et un dispositif, qu'est-ce qu'on fait de cette plasticité pour avoir un projet de territoire qui tienne le choc ? Peut-être que de temps en temps, on pourrait se poser le problème comme ça, parce que Airbus, ils vont se débrouiller tout seuls, et ce sera sans doute d'une autre manière que celle qu'on souhaite.
Oui, ils vont se débrouiller seuls, ils vont licencier, je crois, 15 000 personnes, oui, globalement, dont, dit-on, 5 000 personnes en France, donc beaucoup à Toulouse, on peut l'imaginer, oui, oui. Ce qui devrait peut-être inciter, alors je ne vais pas dire le nouveau maire, mais le maire renouvelé, à regarder un peu ses projets, puisqu'il n'a jamais intégré dans son programme ce genre de choses, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Léonore.
Je voulais ajouter quelque chose, c'est simplement le fait de, quand on parle de cette plasticité, c'est aussi de voir... comment réagir à une crise ? Parce que ça nous a montré la réalité de la santé, dans nos hôpitaux. Ça, comment revoir un moment, parce que ça peut revenir, un moment de crise en disant on en a pas assez de matériel. Comment on peut faire à nouveau pour que si arrive une nouvelle crise de cette façon, parce qu'on se rend compte tous les manques qu'on avait. Que justement, cette plasticité, on peut l'appliquer au niveau de la politique de santé pour qu'ils revoient la façon dont ils ont géré nos institutions, comment ils ont fait face à cette crise. Donc, je crois que c'est à voir, pas simplement au niveau de l'emploi, mais c'est au niveau de nos institutions, la façon dont elles se sont organisées.
Enfin, il y aura quand même beaucoup de choses à revoir. Quand on regarde les sommes assez faramineuses que nous consacrons au secteur hospitalier, les résultats que nous avons obtenus, les Allemands dépensent moins d'argent, ont été beaucoup plus performants
c'est
que
ça,
nous.
C'est ça.
Il va falloir se poser quand même un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on n'entend pas trop parler de ce genre de choses.
Oui, mais alors je reprends la première question de Léonore tout à l'heure sur la notion de guerre.
Oui.
Justement, ce qu'apprend la guerre, c'est intéressant parce qu'à l'université, je n'ai pas si minard à croiser ça. Moi, c'était vraiment un grand coup de chance. Ce n'est pas nouveau. L'économie de guerre a été traitée par des gens comme Oscar Morgenstern,
ouais,
qui en 1953 a fait un article sur la compressibilité des systèmes.
où il montre bien que dans un système économique, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher sans effriter complètement le modèle, et des choses qui peuvent tout à fait se substituer et s'adapter. Et donc je vais tout à fait le sens de Léonore, je pense que non seulement il faut le savoir, mais ça devrait guider, d'une certaine manière, l'intervention notamment de l'État dans le monde économique, et surtout quand il intervient sur le plan financier.
Bon, sachant que pour l'instant, on n'a pas vu les résultats économiques de ce Covid, enfin la catastrophe, puisque notamment un certain nombre d'administrations ont reçu des instructions et ils ne bougeront pas avant le début de l'année prochaine. Le tribunal de commerce, notamment de Toulouse aujourd'hui, n'est pas noyé sous les dépôts de bilan. Mais quand l'URSSAF notamment, pour ne parler que d'elle, va commencer à réclamer ses sous, voire à signer en janvier 2021, qu'est-ce qui va se passer ? Donc les effets, pour l'instant, on ne les voit pas dans leur totalité. Et il faut que les Français soient parfaitement conscients, et c'est malheureux de le dire, mais il faut regarder, il faut dire la vérité, avoir les yeux ouverts, que la période qui s'annonce va être économiquement extrêmement complexe, socialement bien sûr aussi.
Mais on voit que justement, de ce point de vue, moi j'attendais hier, puisqu'on attendait les mesures très fortes du président de la République, moi j'aurais pris son joker sur la taxe carbone, c'est intéressant comme sujet, puisqu'en réalité, c'est le seul vrai enjeu. Donc comme politiquement on ne sait pas l'utiliser, on ne le fait pas. Mais peut-être qu'on aurait pu penser que la première décentralisation, c'était la taxe carbone, à condition que le résultat de la taxe carbone soit recyclé dans un modèle tout à fait keynésien, au contraire, de relance sur une sorte de revenu de base, mais à condition qu'elle soit fléchée sur des dispositifs et des filières écologiques. Donc je vois quand même qu'on n'a pas montré, on n'a pas fait preuve d'un courage extraordinaire, c'est-à-dire que les trois seules choses qui posaient question, il y a eu trois jokers, et celui-là, pour le coup, était intéressant et pour le climat, mais aussi pour la relance économique, parce que si on veut créer des filières vertes, mais il va falloir à un moment donné créer des pipes et des financements.
Ah oui, oui.
Sinon, on va relancer la machine par la consommation et on achètera des produits chinois.
Oui, ben on va repartir comme avant, alors que l'on sait que notre société est malade de trop de consommation, de trop d'industrie. Ouais. Et le Covid qui avait fait prendre un peu conscience des choses aux gens qui avaient... on est revenu à la normale, entre guillemets, ce que les gens pensent, parce qu'on n'est pas du tout dans la normale, et on va repartir comme avant. Nous avons déjà perdu beaucoup d'années pour réformer notre société, et on va continuer à les perdre jusqu'au prochain choc qui arrivera certainement très rapidement. Bien, sur cette question...
Et sur cet optimisme partagé.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est malheureux, mais je crois qu'on n'est pas dans une époque où on puisse être optimiste. Et on pourrait l'être s'il y avait une prise de conscience des gouvernants. S'il y avait des mesures, mais on sait très bien quelle est la situation, j'ai déjà dit, on sait très bien quels sont les remèdes qu'il faudra apporter, on sait même les financer, mais les politiques ne veulent pas le voir. Donc c'est pour ça que j'avais terminé mon édito en disant que les citoyens devaient se prendre en main. Ce mouvement-là viendra du pays, viendra des citoyens, viendra de la base, et ne l'attendons surtout pas des politiques. C'est pour ça que j'ai appelé les gens à s'occuper un peu de leurs intérêts et à sortir le nez de leur nombril et à discuter avec les autres et à essayer de créer, à essayer d'avancer ensemble. Bien, les nuages nous gagnent, je vois que nous sommes sur la terrasse peut-être.
Économique, sociaux et météo.
Voilà, tout à fait. Alors pendant que nous vivons difficilement cette période, le monde continue à tourner, pas dans le bon sens, nous le savons, les choses bougent, et notamment sur le plan, et nous rentrons là, vous l'avez compris, dans le deuxième sujet que j'annonçais, dans le sujet concernant le Moyen-Orient et les prétentions de la Turquie, puisque M. Erdogan profite un peu du fait que nous dormons et que nous regardons ailleurs, pour s'installer en Libye, c'est-à-dire globalement à 400 km des côtes siciliennes, lesquelles sont européennes, comme vous l'imaginez. Alors la Libye, c'est un territoire un peu en déshérence. On sait qu'elle a été la responsabilité de la France et de l'Angleterre dans une intervention absolument catastrophique qui a livré ce pays à toutes sortes de bandes armées organisées, etc. Un pays qui est aujourd'hui en partition. Vous avez M. Haftar qui est... aujourd'hui qui tient une partie du pays avec l'appui de la Russie, des mercenaires du groupe Wagner, les Émirats Unis, la France et l'Égypte. Et de l'autre côté, vous avez un monsieur Farage qui doit, lui, son salut aujourd'hui aux militaires turcs, avec qui un accord de coopération a été signé, sachant que ben, les Turcs, ce sont les frères musulmans, et que monsieur Farage est aussi de ce courant de pensée, si on peut l'appeler ainsi. Dans la Turquie, ce qui est grave, c'est arroger les droits de forage en Méditerranée orientale. Tout ça condamné par la Grèce, l'Égypte, l'Égypte, vous savez, qui est complètement contre les frères musulmans, qui les a embastillés et en partie décimés. Les Émirats, la France aussi, qui jouent dans, là-dedans un rôle trouble, sachant quand même que lorsqu'il y a ce type de guerre, eh bien, elles sont souvent induites par le pouvoir. Le pouvoir, il vient de l'énergie, et l'énergie, aujourd'hui, c'est le pétrole. La Libye est le premier producteur de pétrole africain devant le Nigeria. Donc la Turquie s'installe, a obtenu base maritime, aérodrome militaire. Elle a envoyé des militaires et des miliciens désœuvrés dont on sait quelle est l'origine. Ils ont également mis la main sur le flux de migrants subsahariens qui transitent par la Libye. Ils contrôlent la filière, comme ils contrôlent le sort des réfugiés en Anatolie. Et la Turquie fait du chantage envers l'Europe. Donc nous avons ce territoire partagé aujourd'hui entre la Turquie et les Russes qui recherchent aussi du pétrole, puisque le pétrole russe est en pleine déplétion et à peu près le tiers de ce que nous consommons vient de la Russie, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Et il y a également entre ces deux pays qui ne s'entendent pas toujours, on le sait. Il y a un partage d'objectifs, c'est éliminer l'Occident du Proche-Orient et prendre sa place. Donc on pousse les pions en Méditerranée orientale, je l'ai dit. On fore des forages prometteurs parce qu'il y a potentiellement des réserves de pétrole très intéressantes. Et puis également, on va contrôler le pipeline qui évacue les gaz israéliens et le pétrole égyptien. Donc là-dessus, nouvelle source de problèmes. L'Europe aujourd'hui ne bouge pas, une inertie assez stupéfiante. Alors, peut-être faudra-t-il compter sur Mme Merkel qui va prendre les clés de la maison et qui a de suite envoyé l'ambassadeur allemand qui était à Paris, mais qui est un de ses proches, qui devient ambassadeur pour l'Union européenne en Turquie. Donc également un problème avec l'OTAN, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN. On sait que dernièrement, une de nos vedettes s'est fait illuminer, comme on dit techniquement, c'est-à-dire qu'elle a été... Elle a voulu contrôler un cargo turc qui était protégé par des vedettes militaires turques, lesquelles ont allumé notre bateau militaire, hein, qui intervenait d'ailleurs pour l'OTAN, c'est-à-dire qu'on a pointé des lasers dessus, ce qui est la première phase. Après, c'est le tir derrière. Donc il y a une enquête de l'OTAN là-dessus, tout le monde s'en est mêlé, les États-Unis, mais ça veut bien dire quand même qu'aujourd'hui, on monte en intensité guerrière, qu'il y a là-bas sur place des armements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus dangereux, et que c'est une zone à surveiller, notamment au niveau de la paix européenne, hein, 400 km des côtes, au niveau de l'amas d'armement qui se trouve là-bas, puis au niveau de migrants que la Turquie retient, mais qu'ils nous font payer et pour lesquels, je l'ai dit, nous font du chantage. Sur cette question, qui veut commencer, Jean-François, pour respecter l'ordre de tout à l'heure?
Bon, il va falloir mettre un peu de désordre dans tout ça, mais j'ai juste une remarque, un complément à l'excellente information qui vient d'être faite, mais... C'est pas tout à fait exact de parler de la Turquie, la Russie, la France par rapport à ce qui se passe en Libye, hein, ou du moins chaque fois il faut se dire que la guerre est faite par des gens qui ne sont que des employés des États. Hein, la guerre n'est plus faite par des conscrits. Hein, la citoyenne ou le citoyen sous l'uniforme, mais nous avons l'agence Wagner pour les Russes qui s'illustre en Libye parce que, en gros, elle fait la guerre au bénéfice du gouvernement russe, de la même manière qu'en face, dans l'équipe en face.
Des djihadistes.
Il y a toute une série de mercenaires, hein, de professionnels de ce genre de choses, ce qui certainement ne doit pas être complètement indifférent sur les effets que nous pouvons avoir les uns et les autres sur la perception de cette guerre-là qui est en fait une guerre faite par les autres. Ce sont des professionnels qui se battent.
Mais ce ne sont que des instruments. Ils sont de toute façon à la botte d'un côté d'Erdogan, de l'autre côté de M. Poutine.
Bien sûr, mais juste évoquer le fait qu'on ne ramène plus devant les télévisions les sacs mortuaires, comme ça a pu exister au moment du Vietnam. Et la guerre, à partir du moment donné, où elle est faite par les autres, et où, en fait, elle n'a d'impact que sur des professionnels, ou bien entendu, elle a un énorme impact sur les populations. Parce que ceux-là, ils y sont quand même, sous les bombes, et les victimes des professionnels, ce sont pas, il n'y a pas que des professionnels qui se tuent entre eux, comme disait Jacques Prévert, sinon ce serait une bénédiction, une guerre qui ne tuerait que les militaires, mais ce sont les populations effectivement qui en sont victimes. Mais on est quand même dans une forme de guerre, nous découvrons à nos portes une forme de guerre qui est une forme de guerre aujourd'hui, qui est une forme de guerre hyper moderne. C'est les autres qui la font. Ça se fait par écran interposé. Il n'y a que le sang et les larmes des populations civiles qui sont pour de vrai. Ouais. Pour le reste, c'est une espèce de grand jeu vidéo qui fait que peut-être aussi, comment dire, les gouvernements ne sont pas complètement poussés par l'opinion publique, tant effectivement ces choses-là sont celles des autres. Voilà.
Au moins pour Poutine et Erdogan, ça les arrange parce qu'ils ne sont pas forcément en très bonne position, surtout Erdogan chez eux. Poutine non plus.
Russe, pas terrible non plus.
Pas terrible non plus. Donc est-ce qu'ils vont avoir les moyens d'aller jusqu'au bout ? Erdogan est dangereux quand même parce qu'il veut rétablir la domination de l'Empire ottoman, ça il l'a toujours dit. Il s'appuie sur les frères musulmans, donc on est sur une politique néo-ottomane. Et il veut avoir accès au Maghreb et en Afrique. Il a quand même pas mal de préoccupations africaines. Regardez le réseau de Turkish Airlines aujourd'hui, c'est le premier réseau étranger en Afrique. Ça veut dire quelque chose sur ce que veut faire Erdogan. Donc entre le pétrole, la mainmise sur les migrants et cette volonté un peu d'envahir l'Afrique qui pour l'instant est aux mains des Chinois, nous sommes passifs pour le moment et nous regardons. Il faudrait quand même que l'Europe se manifeste et puis que M. Macron peut-être arrête de faire des erreurs historiques en faisant des conférences internationales où il place par exemple le maréchal Haftar ou le général Haftar, je ne sais plus ce qu'il est, mais enfin si le général il sera maréchal, le place sur un même pied d'égalité que ce qui a choqué beaucoup la communauté internationale et notamment les diplomates européens, le mettre sur un même pied que le gouvernement reconnu de Libye reconnu par l'ONU. Il faut aujourd'hui véritablement une intervention européenne. Peut-être que grâce à Mme Merkel, nous allons la voir. Léonore ?
Alors, je voulais commencer aussi par une image, comme a commencé Jean-François tout à l'heure, mais moi, je vois l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs qui lancent, chacun se lance de boomerang, et ça revient, mais c'est la population qui souffre les conséquences, en fait. Et c'est une guerre qui on sait très bien que pour que ça finisse, voilà, il faut que les gens prennent de bonnes décisions, surtout les acteurs de pouvoir. Parce que quand on parle de pouvoir, on parle aussi de l'énergie. On a évoqué, tout à l'heure Jacques Lavergne a évoqué. C'est-à-dire qu'il y a le problème de l'énergie, le problème du pétrole, mais le problème aussi de la façon comment chaque acteur gère son camp. On voit que l'Union européenne, elle est face à cette situation, mais elle n'est pas face à une situation en tant qu'acteur qui agisse rapidement. Parce que moi, je pense, je le répète, à la population qui souffre, c'est le sang qui coule. C'est un problème de territoire, c'est un problème aussi historique, mais c'est la population qui souffre des conséquences. Donc c'est pour ça que quand je vois cette image d'un boomerang, on lance, chacun lance et ça revient. Mais surtout, c'est l'effet sur les gens qui perdent l'espoir. On a aussi cette idée d'Erdogan d'installer cette pensée ou cette politique dans un gouvernement en crise, revenir à l'état original des Ottomans. Mais je crois aussi que c'est une façon aussi de voir comment il s'instaure cette politique, mais avec le pétrole. C'est ça le jeu.
N'oublions pas qu'on va forer près des côtes grecques, on va forer près de Chypre, Chypre qui n'est pas reconnue, au moins une partie par Erdogan. Je ne sais pas où ils vont forer exactement.
Oui.
C'est des droits de forage que la Turquie s'est attribué un peu à la hussarde. La Libye n'a pas eu trop son mot à dire. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir sur cette question. N'oublions pas que nous sommes importateurs de pétrole. Nous n'avons aucune production chez nous. C'est terminé. La mer du Nord, c'est terminé. Qu'un tiers nous vient de la Russie qui est en pleine déplétion. Donc, on va certainement recevoir moins. Je ne sais pas où on va aller en rechercher d'autres. Nous sommes à plusieurs niveaux impactés par ces manipulations et de Poutine et d'Erdogan. Pierre Larouille.
Je reviens quand même, puisque vous avez à peu près tout dit, en tout cas de ce que je sais moi. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est l'eau.
Ah, oui.
Parce qu'en réalité, c'est quand même un objet stratégique essentiel, l'eau. Et tous les barrages que fait la Turquie actuellement, c'est une guerre larvée, forcément, avec l'ensemble des pays. Et ça confronte, vous vous souvenez du débat qu'on avait eu sur l'entrée de la Turquie en Europe, ça aurait posé, ça continue de poser un vrai sujet, parce que si ils ne sont pas européens, alors ils servent d'un airbag très agressif, et s'ils étaient devenus européens, ils nous auraient confrontés directement à la guerre qu'ils provoquent en faisant des barrages.
Oui.
Ils sont toujours membres de l'OTAN, quand même.
Et ils sont toujours, par ailleurs, membres de l'OTAN.
Oui, membre de l'OTAN, mais l'OTAN se désintéresse un peu, d'autant plus que les États-Unis, surtout, se désintéressent et que, globalement, Trump n'est pas un ennemi d'Erdogan. Je pense que c'est un euphémisme que de le dire. Sur ce point, quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Allez, passons au troisième sujet, qui est celui de l'Amérique latine. Que se passe-t-il en Amérique latine, Léonore, et comment ce Covid est vécu par ces différents pays, différemment, bien sûr ? On parle beaucoup du Brésil et de la politique, enfin si on peut appeler ça une politique de son dirigeant Bolsonaro. C'est que quand même au Brésil, il y a aussi les gouverneurs de pays qui tiennent un peu la maison, et heureusement d'ailleurs, mais ils sont dans une très très mauvaise passe au point de vue sanitaire. Léonore.
Très difficile. Alors je me reviens vous raconter un peu ce qui se passe au niveau général, hein, parce qu'après je vais parler plus en détail sur la Colombie. Parce qu'il passe une crise très difficile aussi, parce qu'on ne parle pas, on n'entend pas trop sur la Colombie en France, mais on entend plus sur le Brésil. Alors, au niveau général, c'est vrai que c'est le Brésil qui est le plus affecté, et le Mexique. Le Mexique, c'est à côté des États-Unis, donc voilà, il y a une crise aussi avec sanitaire entre les États-Unis, parce que bon, c'est la frontière avec les États-Unis, avec Trump, tous ces problèmes d'immigration. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se rend compte que les pays ne sont pas prêts à affronter la situation. Aucun pays, hein, aucun. Sauf El Salvador. Et avec Bukele, le président, un jeune président qui vient d'assumer la présidence, même pas un an. C'est le mieux, on va dire, qui s'en sortit par rapport au coronavirus. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il a commencé par établir un revenu de base. Parce qu'en Amérique latine, il n'y a pas de revenus de base. Donc, déjà, pendant 3 mois, personne n'a payé les loyers, personne n'a payé les services. Il a donné une aide aux familles. Donc, il a essayé de construire. Non, il a construit avec son gouvernement un hôpital à moins de deux mois et demi. Donc, vous pouvez imaginer comment ce président s'est fait connaître. Donc, je crois que les élections, il a rassuré les élections, hein, pour le prochain mandat. Je suis convaincue qu'il va jouer sur ça. C'est un président qui est très critiqué en même temps, parce qu'il y a ce côté évangéliste qui le soutient. Pas différent de Bolsonaro. Hein. On parle toujours d'une présence très forte aussi, d'une aide pour Bolsonaro, des églises évangéliques. On parle également de Brésil, un problème sanitaire dans lequel le président, il a dit, pendant quelques mois, il a commencé à dire, on n'a pas de problème avec le coronavirus. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont perdu du temps pour affronter la situation. Donc, c'est pour ça que le Brésil se trouve aujourd'hui dans un problème sanitaire critique. Parce qu'ils ont laissé passer le temps, parce que le président, il a dit, il faut travailler, c'est pas la peine de mettre des masques, c'est pas la peine de faire attention aux distances sociales, vous pouvez continuer votre vie normale, et lui-même, il a donné l'exemple. Donc ça fait que le Brésil se trouve aujourd'hui dans une crise sanitaire, les hôpitaux ne tiennent pas la route, on va dire comme ça, et au Mexique, avec le président Labrador, qu'est-ce qui se passe que, lui, pareil, au début, il disait non, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que le Mexique et le Brésil, c'est les deux pays qui sont le plus affectés. Alors, on parle également de Pérou et d'Équateur. La crise, on va dire qu'ils sont dans un moment de crise qui est en train de passer. Parce que c'est les hôpitaux, ça, il y a eu une crise dans les hôpitaux, il n'y avait pas assez de places. Il y avait tellement de problèmes au niveau des oxygènes et des machines que les gens, ils s'amenaient leur propre oxygène dans les hôpitaux pour pouvoir se faire soigner. Au niveau des aides pour les gens, donc on parle des populations qui sont les plus affectées, il n'y a pas de nourriture, et surtout pour les villages, pour les gens qui sont, ils sont loin de la ville, il n'y en a pas assez d'aide pour eux. Donc, et c'est ça un cadre qui est le même presque dans tous les pays. Je ne sais pas si vous avez entendu, et pour nos auditeurs, sur le fait de... On a beaucoup joué ici en France sur le papier toilette. Vous savez, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte autre chose par rapport à l'Amérique latine. C'est qu'en Colombie, ils ont décidé de faire un jour sans taxe. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils s'oublient. Ils s'oublient ces jours-là tout. Ils sortent l'argent qu'apparemment ils s'endettent pour acheter des appareils. Et ces jours-là, c'est la foule pour entrer dans les supermarchés. Ils ne respectent pas. Et ça veut dire que le pays se trouve aujourd'hui dans une situation pareille qu'en France par rapport au papier toilette. Et le gouvernement n'a pas su gérer la situation parce que les gens ils sont sortis de leur maison, de leur confinement pour aller acheter. Donc, en parallèle, ça est devenu une blague. Dans ce moment, si vous entendez les news là-bas, c'est les gens qui jouent avec ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est le papier toilette. En Amérique latine, c'est les jours sans IVA, sans taxe. Merci. Et donc, moi, j'aimerais bien vous dire que la situation, elle est critique, mais en même temps, la population ne comprend pas qu'il y en a un confinement. Donc, moi, je crois qu'il y a un problème aussi de communication. C'est un problème où les hôpitaux ne tiennent pas la route, surtout que c'est le Salvador qui a su gérer, parce qu'ils ont construit un hôpital, le seul pays, hein, tout petit, mais le seul pays qui a su construire. Mais les autres pays n'ont pas su affronter cette situation. On sait déjà qu'il y a la corruption, on sait déjà qu'il y a ces problèmes de machines, qu'il n'y en a pas assez. Ils ont trouvé des moyens pour construire des machines locales. C'est bien, bravo. Mais aussi, c'est le fait de le gouvernement, comme il est en train de gérer la crise par rapport à des gens qui n'ont pas de travail. Les gens, ils meurent de certains aussi de la crise de faim. Il doit mettre un fil rouge dans les portes et dans les appartements pour dire « on a besoin de nourriture ». Donc, je me reviens juste au finir pour dire il y a la différence entre ceux qui gèrent le gouvernement au niveau du gouvernement lui-même et la population. Il manque de communication. Les gens n'entend pas le message qu'on dit, il faut rester à la maison.
Merci sur ce point, Léonore. Dernière question, on dit un mot des élections municipales à Toulouse, hein. On prend les mêmes, ou plutôt le même, et on recommence. Jean-Luc Moudin qui a été réélu, avec à peu près 3 points d'écart avec la liste concurrente. Les mauvaises langues disent que les socialistes ont voté pour lui, ce qui lui a permis de faire la différence. Quelqu'un veut-il commenter? Pierre Larouille.
Lancer comme ça, ça me paraît compliqué.
Ah ben, vous allez rétablir, hein, Pierre.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que la première chose, moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est la soirée électorale. Parce que j'ai pas fait toutes les chaînes, mais c'est simple. Toulouse, qui est quand même, je crois, la 4e, 5e ville de France, est totalement absente des radars. On n'intéresse personne. Alors ça devrait poser une question à l'ensemble des candidats, quand même, parce que franchement, on parle de Toulouse quand il y a Airbus ou le Stade Toulousain. Mais sinon, la deuxième chose, écoutez, il y avait d'un côté la continuité, de l'autre côté, il y a une tentative avec visiblement des choses qui ont accroché les gens, intéressé, qui ont aussi créé un trouble, parce que nous sommes dans une période pas totalement facile. Et peut-être que l'attelage était un peu complexe et pas toujours lisible. Donc moi, je ne suis pas vraiment surpris de manière objective.
Peut-être la subjectivité, on s'en fout. Certains, pour reprendre votre image, chevaux un peu fous de l'attelage ont inquiété les gens.
C'est pas impossible. D'ailleurs, Moudin s'en est servi, mais à juste titre. C'est surtout, moi, ce qui m'est apparu, mais on le sait, ce n'est pas spécifique là, pour le coup, à Toulouse, c'est que très sincèrement, je n'ai pas vu les programmes. J'ai vu la rupture de méthode, très clairement, entre Archipel et Moudin, on voit bien qu'il y a une rupture de méthode. Mais sur les programmes, c'est quand même, je pense que vu d'un citoyen qui n'est pas tout le temps plongé dans la littérature politique, franchement, je trouve qu'on n'a pas des programmes politiques et des manières de les porter qui soient à la hauteur des ambitions de cette ville.
Jean-François, un mot ?
Oui, très rapide. L'impression que ça m'a donnée, c'est que la recomposition d'une alternative à la droite à Toulouse, large, droite large, hein, qui va de l'extrême de la droite extrême, pour pas dire à l'extrême droite, jusqu'à un centrisme bien pensant et bien pensé du côté du centre-ville. Voilà, il n'y a pas encore objectivement d'alternative à ça. Un des éléments étant, de mon point de vue, que la décomposition d'une partie de la gauche traditionnelle a encore suffisamment d'effets délétères pour arriver à stériliser pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui des gens avoir des positions qui étaient des positions. Et là, quand je parle des compositions, on est vraiment dans de la putrécéine politique. Hein. Il y a eu des choses très bizarres qui se sont faites. Pour le dire crûment, peut-être que le Parti Socialiste n'est pas arrivé jusqu'au bout de sa décomposition pour arriver à en faire quelque chose d'à peu près politiquement jouable. Voilà.
Serait-il un phénix qui renaîtrait de ses cendres ?
Je crains que le phénix ne soit des oiseaux mythiques qu'on ne voit que dans les légendes. Deuxième chose que je voulais pointer, toute une partie des gens à Toulouse n'ont pas voté.
Oui.
Quand on regarde les cartes électorales sur la ville, encore une fois, pas tellement plus qu'ailleurs d'ailleurs, hein, mais encore une fois, toute une partie de nos citoyennes et de nos citoyens ne se retrouve pas dans cette manière de faire de la politique qui a pris d'ailleurs en fin de campagne des formes extrêmement détestables. Hein. Je suis toujours assez désagréablement surpris que la politique tourne en espèce de troisième mi-temps forcené et qu'on fasse de la politique ou qu'on peut faire de la pire des manières du sport. Voilà. Mais toujours est-il que des gens, toute une catégorie de la population toulousaine n'a pas voté. Et pour le moment, ne se retrouve dans le jeu politique que dans des registres qui sont registres de l'incompréhension, du mépris, quand ce n'est pas du clientélisme. Je pense que politiquement, on va le payer. On le paiera de plus en plus.
Léonore ?
Moi, je voulais ajouter aussi par rapport au marketing politique. Le marketing, c'est-à-dire, je reviens à votre idée, à la dernière, par rapport que les gens n'ont pas voulu voter. Mais aussi la façon comment on organisait les stratégies pour que les gens connaissent leurs candidats. C'était parfois, je trouvais que c'était même agressif, comme ils se rapprochaient des gens. Mais je crois que c'était aussi le fait de confinement, c'était incertain, donc on ne sait pas comment faire, on fait la va-vite. Il faut que les gens votent, il faut faire absolument que les gens sortent à voter, mais c'est ça, hein, les gens, la plupart, par peur du virus, ils n'ont pas sorti. Donc je crois qu'il faut revoir aussi la façon de faire le marketing politique.
Merci. Bien, leur approche de nos dernières rubriques. On commence par les brèves, puisque vous m'avez choisi pour les ouvrir. Je le fais donc. Vous savez que des militaires français combattent au Mali et combattent le terrorisme islamiste. Et bien dernièrement, le Mali, qui est, on pourrait dire choyé pour même peut-être dragué par les Russes, eh bien, le Mali a signé un contrat prévoyant avec les Russes de livrer avions, hélicoptères et blindés à Bamako, ce qui fait que pendant qu'on maintient ce régime la tête hors de l'eau, pendant qu'on y laisse d'abord les vies de nos soldats et beaucoup d'argent, eh bien, le Mali va signer avec les Russes des contrats d'armement qui en prennent. Qui pourra ? Jean-François, une brève.
Oui, la Cour suprême des États-Unis accepte la reprise des exécutions capitales fédérales. Le monde d'après, décidément, il y a du travail à faire.
Voilà, on prend les mêmes, on recommence toujours pareil. Jean-François, Pierre.
Oui, j'aurais pas de brève parce que comme j'avais fait le pari stupide de faire un journal du confinement qui a été plus long que prévu, je me suis épuisé dans les brèves, donc je vous laisse la parole.
Tu restais à les longues,
Léonore.
Moi, je crois une brève, et c'est par rapport à... Il y a une situation que je tiens à cœur, que je vais absolument la partager. C'est une situation en Colombie, c'est par rapport à la violation. Ils sont... La Cour de cassation a déterminé de donner la pénalisation pour les gens qui violent indéfinie. Mais en même temps, on a un cas aujourd'hui, ça s'est passé cette semaine qui vient de passer, et la violation d'une fille d'une tribu en Colombie qui s'est fait violer par 7 militaires. Donc, je reviens à cette pénalisation, à cette loi par rapport à la violence physique envers les femmes. Donc, c'est un peu international, mais moi, je tenais à cœur de la partager.
Merci. Allez, ça va mieux, rubrique ça va mieux. Ben, moi, je pense, dans la rubrique ça va mieux, d'abord aux condamnations dans le dossier des commissions. Bon, ça a mis le temps. On dit que l'effet pédagogique de la justice joue à plein quand elle est rapide. Alors là, je ne sais pas s'il y aura un effet pédagogique, mais enfin bon, on est arrivé à des condamnations. Par contre, la pédagogie a mieux fonctionné pour M. Fillon, qui lui a été condamné. Bon, je ne me prononcerai pas quant au quantum de la peine, il ne m'appartient pas, mais là, ça a été beaucoup plus rapide. Et puis aussi, peut-être, on peut voir un ça va mieux dans l'ouverture de certaines archives élyséennes. Une victoire remportée par M. François Graner devant le Conseil d'État après 5 années de procédure. C'est un chercheur qui s'efforce de comprendre le rôle joué par la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis du Rwanda. On remonte en 1994. L'Élysée avait opposé un grand mutisme là-dessus. Le Conseil d'État, et vous voyez que le Conseil d'État travaille souvent très bien, eh bien lui ouvre l'accès à 11 dossiers d'archives de Bruno Delay, qui était le conseiller Afrique du président Mitterrand en 92 et 95. Léonore, ça va mieux ?
Ça va mieux. Alors, pour Toulouse, pour certains, je voulais parler par rapport aux restaurants et des bars. C'est vrai qu'ils ont passé une situation compliquée dans ces 3 mois, donc ça va mieux, c'est qu'il y a une aide pour eux, mais aussi, surtout, à nous, de pouvoir aider les restaurants et d'aider... Parce que beaucoup ils vont fermer malheureusement, mais il y a des aides qui sont mises en place pour pouvoir les aider à rebondir.
Jean-François ?
Deux, ça va mieux parce qu'on n'a pas été très positif.
Alors, il y en aura un pour Pierre qui n'en avait pas et un
bon,
pour
alors, j'en prête un à Pierre. Je vais le choisir d'ailleurs de manière assez perverse. Le premier, c'est le mien. Donc, c'est international, c'est au Soudan. Enfin, l'excision va être punie, l'excision des petites filles va être punie. Je pense que ça va mieux quand même au Soudan. Pour qui connaît le Soudan, c'est quand même une avancée. Voilà.
Oui, c'est une avancée. Après, il faudra faire respecter ça sur le terrain, c'est autre chose.
Complètement. Mais déjà, le fait que ce soit puni et pas autorisé, c'est quand même... Voilà. Et la deuxième chose, et je la dédie à Pierre, qui je pense la partage, c'est ça va mieux, les violences policières en France, ça existe.
Bien sûr.
Il paraît. Allez, dernière rubrique, le conseil culturel. Alors moi, je vous recommande un livre, vous aurez le temps de lire pendant l'été, mais il ne fait que 206 pages. Ça s'appelle « Le syndrome du dictateur » qui paraît chez Actes Sud. C'est un écrivain égyptien, Ala El Aswani, qui n'est pas à son coup d'essai, si je puis dire, qui connaît bien le problème puisqu'il a été obligé d'émigrer de chez lui. Il a quitté l'Égypte, mais il a vécu ce problème-là, d'où la force de son livre, puisqu'il connaît la dictature dans sa chair. Alors, juste une petite citation piquée dans ce livre. « Sais-tu qui je suis ? » Saddam Hussein posa la main sur la tête du petit garçon dont il visitait l'école. « Oui, je vous ai vu à la télévision et quand mon père vous voit, il crache sur l'écran », répondit naïvement l'enfant. 2 jours après, son père mourait sous d'affreuses tortures et sa famille recevait l'ordre d'aller retirer les corps. Donc vous imaginez la tonalité du livre. Dans le monde d'aujourd'hui, on dénombre une cinquantaine de dictatures, donc ce qui fait à peu près plus de 2 milliards d'êtres humains qui sont transformés, comme l'on dit, en bons citoyens, c'est-à-dire ceux qui ne disent rien, qui ne parlent pas. L'Égyptien nous démontre, l'auteur égyptien nous démontre un peu le système de consolidation par le tyran de sa position, notamment en dénonçant des complots imaginaires, en faisant de chaque citoyen eh bien, un mini-indicateur qui va collaborer avec le régime. Voilà, donc c'est un livre extrêmement facile d'accès, nourri de nombreux exemples. On y parle d'Hitler, de Mussolini, de Ceausescu. Nous n'en manquons pas. On parle du Moyen-Orient. La seule exception pour la regretter, c'est la Chine. Mais c'est un livre profondément passionnant et qui nous rappelle à la vigilance de tous les instants. Et puis, juste peut-être, il y avait hier soir, je ne sais pas si on peut le revoir, il y avait un reportage sur France 2 à 22h50 sur les damnés des ouvriers, ça s'appelait comme ça, les damnés des ouvriers en abattoir. Si vous pouvez le revoir, c'est absolument saisissant de voir les témoignages de ces gens sur leurs conditions de travail et surtout sur l'état sanitaire et l'état des animaux qui se font dépecer en étant parfois encore vivants. C'est absolument hallucinant à l'époque où on est, mais enfin bon, on débite les hommes, on débite les animaux, cette société est sans pitié pour personne. Jean-François.
Oui, au risque de contribuer à l'effet waouh qu'a évoqué Pierre en début d'émission, j'annonce aux Toulousaines et aux Toulousains que la Cinémathèque de Toulouse démarre ses séances de plein air, hein, qui se font tous les ans, à partir du 7 juillet. Je trouve que c'est bien. Allez-y, renouez.
Trop souvent la Cinémathèque, il s'y passe des choses fabuleuses.
Oui, absolument. Allez-y, renouez avec le cinéma en général et la Cinémathèque de Toulouse en particulier. Nous avons la chance d'avoir un bel outil à Toulouse là-dessus. Allons-y.
Pierre. Un très joli numéro de la revue politique et parlementaire sur De Gaulle. Des articles intéressants. Donc je crois que ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Mais surtout, de manière plus large, un conseil culturel aujourd'hui, ça serait d'aider les artistes, et en particulier du spectacle vivant, parce qu'ils sont quand même dans des difficultés assez importantes.
Et Honor, le mot de la fin.
Alors, il y a en ce moment, il y a un programme qui s'appelle Les Rois de Toulouse. Je n'arrive pas à le prononcer. Les Rois de Toulouse, il y a au Muséum. Et donc, c'est intéressant d'aller le voir. Donc, on vous invite. Mais pour finir, il y a un festival. Il va y avoir un festival comme c'est notre dernière émission. Je profite, c'est le mois de juillet. Une émission sur un festival de cinéma africain. Il faut découvrir. Merci.
Merci à tous. Merci de votre contribution. Comme d'habitude, vous fûtes parfait. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne que vous pourrez retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie. Nous vous souhaitons à tous de très très belles vacances. Merci de votre fidélité. Profitez-en, soyez prudents, prenez soin de vous et nous vous retrouverons à la rentrée de septembre pour une nouvelle édition de Ça va mieux que vous pourrez regarder, c'est aussi une info, sur un nouveau site beaucoup plus clair, beaucoup plus performant qui vous permettra de mieux apprécier. Belles vacances à toutes et à tous.
Merci.